quand tu marcheras, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne trébucheras pas.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Coming, Christa Wells sur Phare FM, 4h04. Si le réveil vient de sonner, c'est que vous devez aller travailler. On est mercredi 15 mai et je vous accompagne jusqu'à 5h encore dans la nuit. Autrement, bon réveil, excellente journée et bon courage. On va ensemble pouvoir vivre encore de bons moments avec de la belle musique. Et tout à l'heure, on va écouter Pain de vie. C'est Patrice Martorano qui nous parle du choix de Dieu. Ce sera après Sia et Kylie Minogue et la chanson Dance Alone. Je vous souhaite encore une très belle journée. Merci de vous réveiller avec Phare FM.
Minuit 5h, la nuit autrement
avec Mireille.
I'm all for, I watch you walk away.
place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Patrice Martorano.
On est dans la joie d'être ensemble. C'est une bénédiction de savoir que... Est-ce que vous avez conscience que Dieu nous a choisis pour le louer et l'adorer? Est-ce que vous avez conscience de ça? C'est quelque chose de fou quand on y pense. La Bible nous parle que nous sommes prédestinés. Ça veut dire avant même que vous soyez né, avant même que votre mère, que vous ayez été tissé dans le sein de votre mère, la Bible nous dit que nous avons été prédestinés, que Dieu nous connaissait déjà et qu'il nous avait choisis pour être des adorateurs pour la gloire de son nom. Juste ça, c'est quelque chose qui nous invite à le louer et l'adorer. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui réalisent ça et qui aiment louer, adorer Dieu? Alors, est-ce qu'on peut applaudir encore une dernière fois le roi des rois? Et j'aimerais vous parler ce matin du choix de Dieu. C'est le titre de mon message, le choix de Dieu. C'est juste bon de savoir que même si nous ne sommes pas le choix de certains hommes, et ça nous arrive des moments, il y a des gens, ils n'auraient pas parié sur nous. Il y a quelques temps en arrière, il y a eu les élections présidentielles. Je pense pas, peut-être ma maman et mon épouse, peut-être mes enfants et encore, je sais pas. Mais il n'y a pas grand monde qui aurait voté pour moi. Et peut-être pour vous aussi. Et les hommes n'auraient pas misé grand-chose sur nous. Mais c'est bon de savoir que Dieu, lui, nous a choisis. C'est pas un homme qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a choisis. Et quand Dieu nous a choisis, peu importe ce que les gens pensent, le choix de Dieu est immuable, irrévocable. Il n'y a que nous, par une mauvaise attitude, qui pouvons nous en éloigner, mais le choix de Dieu est quelque chose de scellé. Il y a cette histoire magnifique dans la Bible, une histoire que j'aime tellement, j'aimerais juste vous la montrer sous un angle un peu différent en guise d'introduction. À un moment donné, la Bible nous dit qu'il y a un homme, un couple, Rebecca et Isaac, et Dieu vient les voir parce qu'ils attendent un enfant, ils aimeraient avoir un enfant, ils en ont pas, et là, Dieu vient parler à Rebecca, et il dit à Rebecca, il va y avoir dans ton sein, il y a en ton sein, il va y avoir des jumeaux. Et la chose pas commune, ça remonte à pratiquement 3000 ans en arrière, généralement l'aîné, c'était lui qui devenait le chef. L'aîné, c'était lui qui avait la plus grosse portion de l'héritage. L'aîné bénéficiait quasiment de tous les privilèges par rapport au cadet, au troisième, au quatrième, etc. Et là, Dieu dit à Rebecca, il dit à la maman, il y en a deux, il y a un aîné, il y a un cadet, des jumeaux, mais le cadet, c'est le choix de Dieu, le cadet va être celui qui va dominer sur son frère. Le cadet, c'est celui que j'ai choisi pour continuer la lignée, pour continuer la bénédiction. Et là, lorsque les enfants naissent, effectivement, ils sont deux. Il y a un aîné qui s'appelle Ésaü et un cadet qui s'appelle Jacob. Et les deux vont grandir. Et puis, le choix du papa, le papa aime beaucoup son fils aîné. Vraiment, il a un faible pour Ésaü parce que il a ce côté un peu viril. Il aime la chasse, il partage plein de choses avec lui, puis il aime l'amener avec lui. Puis la Bible nous dit qu'il l'aimait. Il l'aimait plus que Jacob. Sauf que le choix de Dieu, c'est pas Ésaü, c'est pas l'aîné. Le choix de Dieu, c'est le cadet. Et là, alors qu'ils grandissent, Ésaü, à un moment donné, il a un certain mépris pour la bénédiction, un certain mépris pour les choses de Dieu. Et lorsqu'il va revenir d'une chasse, il a extrêmement faim. Et là, il y a son frère qui avait préparé un bon petit plat. Et il dit à son frère, donne-moi le petit plat que t'as préparé. Et son frère lui dit, écoute, non, je te le donne pas, excepté, par contre, je veux bien te l'échanger contre ton droit d'aînesse, contre le droit de la bénédiction, contre la portion qui t'est réservée que moi, j'avais pas le droit. Et là, la Bible nous dit que l'aîné, Ésaü, va considérer cela, va le mépriser littéralement, il ne va même pas le considérer, il va mépriser son droit d'aînesse et il va le donner finalement au cadet. Et là, il va manger son plat et quelques temps par la suite, le papa qui est sur le point de mourir, il est rendu aveugle, et il sait qu'il reste pas longtemps à vivre, il appelle son fils Ésaü et il veut faire quelque chose de hallucinant. Isaac, même si c'est tout un homme de Dieu, il va vouloir changer le plan de Dieu. Il va vouloir, parce que lui, son cœur, son choix, c'est son fils aîné, c'est pas le cadet. Et il sait que pour Dieu, c'est le cadet, mais lui n'en veut pas du plan de Dieu. Lui, son choix, c'est l'aîné. Alors, il appelle son aîné et il lui dit, écoute, Ésaü, voici ce que tu vas faire. Tu vas aller chasser un animal, tu vas ensuite revenir, tu vas me préparer un bon petit rôti à mes chouilles, tu vas me préparer un bon petit plat à manger, et puis tu me l'apportes et je vais me régaler de ce que tu as fait, et ensuite je vais prier pour toi, pour que tu reçoives la bénédiction, afin que tu puisses dominer sur tous les autres, afin que tu puisses dominer sur ton frère. En d'autres termes, cet homme, Isaac, même si c'est un homme de Dieu, il est en train de vouloir changer ce que Dieu avait choisi. Et là, la maman qui est là, qui entend ce qui se passe, qui est une femme de Dieu incroyable, elle se dit, non, c'est juste pas possible, c'est pas lui lui qui a été choisi, celui qui a été choisi, le choix de Dieu, c'était le cadet. Alors elle va appeler son fils cadet, elle va appeler Jacob. Elle va dire à Jacob, écoute, va prendre un animal là dans l'enclos, il y en a quelques-uns, tu m'en amènes un. Je vais faire un bon petit plat comme ton père les aime. Et ensuite tu vas aller le voir et tu vas te faire passer pour ton frère. Parce que il a dit à ton frère qu'une fois qu'il avait fini de manger, il va apporter la bénédiction. Et il faut que ce soit toi qui l'aie la bénédiction. Alors Jacob est là, oui mais maman, mon papa, même s'il voit plus, il va quand même reconnaître mon frère, c'est Ésaü. Ésaü, ça veut dire le poilu, le velu. Vous imaginez un nom comme ça? Et il s'appelle comme ça, il dit, il a plein de poils, moi j'ai pas de poils, et quand il va me toucher, il va s'apercevoir que je ne suis pas lui. Et sa maman, elle trouve une stratégie, elle dit, écoute, je vais prendre avec l'animal qu'on va tuer, je vais prendre sa peau, je vais te faire un habit, et quand il va te toucher, vu qu'il voit rien, il va te toucher, il va sentir des poils, et il va croire que t'es Ésaü. Ok, très bien, on fait ça. Et là, d'un seul coup, Jacob arrive, le plat est prêt, la maman l'a préparé, et il va voir son papa. Jacob y va. Et lorsqu'il rentre, le papa est là, qui est-ce? Ben c'est moi, c'est ton fils, il se fait passer pour l'aîné. C'est moi ton fils Ésaü. Ésaü, mais je reconnais pas ta voix, on dirait la voix de Jacob, approche-toi. Puis là il le touche, il sent des poils, il dit ah ouais, la voix c'est celle de Jacob, mais les bras, t'es poilu comme ton frère, c'est toi. Et ok, très bien, ben prends le repas, mange. Et là il se met à manger. Et lorsqu'il finit de manger, il dit maintenant approche-toi pour que je te bénisse. Et là, alors qu'il commence à prier pour lui, alors, écoutez bien, alors que lui, dans sa tête, il est en train de changer la volonté de Dieu, en train de retourner la situation, c'est-à-dire que dans sa tête, souvenez-vous, le papa ne voit rien, il est aveugle. Lui, dans sa tête, il est en train de faire basculer la volonté de Dieu. Il savait que c'était le cadet qui devait être béni. Alors, il va commencer à prier, pensant que c'est l'aîné devant lui. Il va commencer à prier en disant, Seigneur, je prie afin que tu fasses de lui une source de bénédiction et qu'il domine sur son frère. En d'autres termes, alors qu'il pense changer la volonté de Dieu, la réalité, il ne fait que l'appuyer et l'accomplir. Comprenez-vous? Il y a cette réalité, quand Dieu te choisit, il n'y a personne qui puisse retourner. Même un homme de Dieu comme Isaac, il n'y a personne qui puisse retourner le choix de Dieu. Ce que Dieu déclare, ce que Dieu dit, c'est quelque chose qui s'accomplit dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Alors, quelle que soit ta situation aujourd'hui, même si tu penses que tu n'es pas été choisi comme par ton papa, comme Jacob, ou que tu n'es pas le choix de certaines personnes, j'aimerais t'encourager ce matin et t'exhorter afin que tu réalises que tu es le choix de Dieu, et ce que Dieu a choisi que tu accomplisses dans ta vie, personne ne pourra te le voler, excepté si toi-même tu as une mauvaise attitude, mais il n'y a que toi qui peux faire capoter le plan de Dieu. Mais il n'y a aucun homme, même pas un homme de Dieu comme Isaac, ne peut t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour ta vie. Alors j'aimerais, je me suis servi de cette histoire en guise d'introduction, vraiment pour planter le décor et vous faire comprendre cette réalité. Et on va regarder à une autre histoire, on va regarder plusieurs histoires. Et on va regarder à l'histoire de la première famille qui a été créée, Adam et Ève. Et lorsque Adam et Ève, Dieu a créé Adam, ensuite il a créé Ève, et il leur a donné un mandat. Le mandat d'avoir des enfants, le mandat de se multiplier, le mandat de remplir la terre. Et la Bible nous dit que Adam va connaître son épouse Ève, et ils vont avoir des enfants. Regardez ce qu'il est dit. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, écoutez bien, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Amen. Premièrement, quand les hommes ne voient rien de bon en vous. Ève fait quelque chose d'assez incroyable, juste pour revenir dans cette histoire. Elle a un fils. Le premier fils qu'elle a, c'est pas des jumeaux, donc elle en a un. Quelque temps après, elle en a un autre. Mais le premier enfant qu'elle a, elle l'appelle Caïn. Et lorsque elle a Caïn, la Bible nous dit qu'elle va s'exclamer. Il va y avoir un chant de réjouissance, de gloire. Elle va dire, Seigneur, c'est avec l'aide de Dieu que j'ai fait cet enfant. Et elle lui donna le nom de Caïn. C'est juste incroyable. Elle ne dit pas, je l'ai fait avec l'aide de mon mari. Non, non, non. Elle zappe son mari. Elle exclut son mari. C'est comme si son mari n'existait pas. En fait, son fils, il vient pas d'un homme. Son fils, il vient de Dieu. Vous savez, des moments, on est là, on regarde nos enfants. Quand vous avez eu vos enfants, là où les premières fois, c'est... et puis ça, c'est vraiment un truc de parents. Hein. On a l'impression que c'est, y a pas plus beau, quoi. C'est the most, c'est le top du top. C'est, y a pas mieux que ça. C'est, il est divin, cet enfant. C'est exactement ce qu'elle vit. Elle est là, elle voit son fils Caïn, elle dit, il est tellement incroyable, elle lui donne le nom de Caïn, elle dit, c'est avec l'aide de Dieu que je l'ai fait, waouh. Puis ensuite la Bible nous dit que elle a eu un autre enfant, mais la Bible nous dit que elle ne dit rien, elle dit rien sur celui-là, c'est un narrateur qui raconte que, et elle a eu un autre enfant qu'elle appela Abel. Comprenez ceci, voici ce que veut dire Caïn et Abel, ça va vous faire comprendre le contexte. Caïn signifie le créateur. L'artiste, celui qui possède, ce fut pour Ève un moment d'exultation, un véritable cri de triomphe. Waouh ! Elle trouve tellement son enfant incroyable, elle zappe le père, c'est avec Dieu qu'elle l'a fait, elle trouve tellement son fils incroyable qu'elle lui donne le nom de artiste, elle lui donne le nom de créateur, elle lui donne le nom de toi sortent les choses. Puis d'un seul coup, elle a un autre enfant. Et lorsqu'elle a un deuxième enfant, voici, écoute, regardez bien le contraste entre les deux. Elle l'appelle Abel. Voici ce que veut dire Abel. Abel veut dire vapeur, buée, vanité, dans le sens d'inutile, d'absurde. Agir d'une façon stérile, devenir vain, être vain, rempli de vains espoirs. En quelque sorte, Abel est en plus de Caïn. Donc, il est vain de donner un sens à son existence. Waouh! Un drame familial se profile à l'horizon. D'un côté, il y a Caïn, l'artiste, le créateur, celui qu'elle a fait avec l'aide de Dieu, le gamin incroyable, tellement beau, tellement intelligent. Oh, c'est mon choix se porte sur lui. J'en ai même pas besoin d'en avoir un autre. Un jour, elle tombe enceinte et elle en a un autre, elle l'appelle Abel. Et Abel, contrairement à Caïn, ça veut dire de la vapeur, ça veut dire t'es stérile, ça veut dire que t'es inutile. Il y a même pas d'espérance, de sens à ton existence. C'est rien, tu sers à rien. D'un côté, il y a le top du top, et de l'autre côté, c'est toi, t'es de la vapeur. Toi, tu sers à rien. Il n'y a même pas à réfléchir à donner un sens à ton existence, tellement que tu ne sers à rien. Est-ce que vous voyez le drame qui se profile à l'horizon? L'enfant roi contre l'enfant méprisé. L'enfant qu'on a choisi contre l'enfant qu'on n'a pas désiré. Et d'un moment, il y a cette réalité, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vous sentir un peu comme Abel, où les gens ne voient rien de bon en vous. Ça vous est déjà arrivé que les gens voient rien de bon en vous? Personne ne voit rien, personne n'aurait parié sur vous, ce que je disais tout à l'heure. Personne ne voit rien d'exceptionnel en toi. J'aimerais vous dire, ce que Dieu a vu en toi, c'est quelque chose d'incroyable. Et même si les hommes ne l'ont pas vu, ce que Dieu a vu, ce que Dieu a projeté, les plans de Dieu sont juste incroyables pour ta vie. Même si les hommes ne le voient pas, ce que Dieu a vu est quelque chose de magnifique et d'incroyable. Moi, je me souviens d'une prof, elle avait parié une bouteille de champagne, c'est quand même quelque chose, hein. Comme quoi je n'aurais pas mon examen. Devant ma mère, elle a fait ça. Vous savez les trucs, là, parents-professeurs, j'arrive avec ma mère et toi, t'es content. Elle me parlait, c'est comme ça. Elle me dit, mais de toute façon, votre fils, hein, moi, je parie une bouteille de champagne, tu l'auras pas son examen. J'ai eu mon examen. Bon, j'ai pas été réclamé la bouteille de champagne. Je me suis dit juste le fait qu'elle a dû voir mon nom admis, elle a dû faire des cauchemars pendant 2 mois. Mais vous comprenez? C'est des moments où on voit rien de bon en toi. Je me souviens, j'étais tout jeune chrétien, je discute avec un chrétien et puis voilà, je trouvais quelqu'un d'intéressant, j'avais envie d'apprendre de lui, je commence à parler avec lui et au bout de 3-4 secondes, il levait déjà la tête par-dessus mon épaule pour voir s'il y avait des gens plus intéressants que moi dans le coin. Comprenez-vous ? Ça vous est déjà arrivé ça que des gens regardent par-dessus votre épaule ? C'est tellement désagréable. C'est tellement, t'as l'impression que t'es rien, quoi. Ok, très bien. Puis tu continues de parler, puis c'est même pas, il fait gaffe à toi, et puis il part. Ok, très bien. Ça s'appelle se prendre un vent, mais monumental. Et donc, t'as cette impression-là. J'aimerais te dire que si ton prof, peut-être tes parents, comme Caïn et Abel, que Ève n'a rien vu de bon dans son fils Abel, même peut-être si tes parents, tes amis d'école, ta famille de manière générale, je ne sais pas, j'aimerais te dire ceci, même si personne ne voit rien de bon en toi, si Dieu t'a choisi et si tu lui fais confiance, des choses exceptionnelles vont naître de ta vie. Parce que si pour les hommes tu n'es que de la vapeur, pour Dieu tu es un instrument de choix puissant et utile pour sa gloire. Amen. Comprenez ceci, le choix des hommes n'est pas forcément le choix de Dieu. Son opinion n'est pas conditionnée à ce que les gens croient de vous, absolument pas. Ce matin, je m'adresse à tous les Abel qui sont dans ce lieu, à tous ceux qu'on a méprisés, à tous ceux par qui on a regardé au-dessus de votre épaule. J'aimerais vous dire, Dieu ne regarde pas ces choses-là et il est capable de donner un sens à votre vie, afin que votre vie soit fructueuse, qu'elle soit bonne et qu'elle soit utile pour la gloire de Dieu. Et même ceux qui ne croyaient pas en vous, le temps va passer et ils vont être obligés de reconnaître ce que Dieu fait dans votre vie. Comprenez-vous ? Il y a quelques semaines en arrière, j'ai eu un appel d'un pasteur qui autrefois était un pasteur stagiaire dans l'église où je me suis converti. Et c'était incroyable, il revenait de l'église de Rive-de-Gier, de là où je viens, c'est une ville entre Saint-Étienne et Lyon, et le pasteur de cette église actuellement, c'est mon frère. Et en l'espace d'un an, il a pris l'église l'année passée, et juste un an plus tard, l'église est passée de 80, ils sont 160, 170 aujourd'hui. L'église a doublé, les offrandes ont doublé, la ferveur des gens, les bénévoles, tout a doublé en l'espace d'une année, il y a toute une dynamique, et il revenait revenait d'une mission là-bas. Et il me téléphone, il dit, ouais, c'est juste incroyable. Il dit, je suis tellement béni de voir ce que Dieu fait à Rive-de-Gier, de voir ce que Dieu fait à Bordeaux, de voir comment Dieu a pu vous utiliser, de voir ce que Dieu est capable de faire. Et il me dit, tu sais, puis il me l'a dit vraiment de manière humble, c'était pas du tout absolument méprisant. Il dit, tu sais, quand toi et ton frère, vous êtes convertis, on s'est convertis à 3 mois d'écart. Il dit, quand vous êtes convertis, franchement, j'aurais pas parié grand chose sur vous. Il y avait un autre couple de frères qui était là. J'irai pas les noms, bien sûr. Il y avait un autre couple de frères. Pour moi, c'était eux, quoi. Et je me souviens, ils s'investissaient à fond en eux. Et ils faisaient pas trop attention à nous. Je me souviens, nous, on était un peu frustrés. Et ils disaient, c'était eux, en fait. Je voyais qu'eux, pour moi, c'était, et puis, Dieu les a bénis, qu'on s'entende bien. Mais c'était juste ça. J'étais incapable. Vraiment, j'ai pas vu ce que Dieu allait faire avec toi et ton frère. Et il y a cette réalité, parfois, les hommes ne voient rien. Mais ce que les hommes ne voient pas, Dieu lui est capable de le voir. Et les années passent et la grâce de Dieu s'est manifestée. Et les gens, même s'ils vous prenaient pour des Abel, pour de la vapeur, pour des gens inutiles, avec de vains espoirs, sont obligés de reconnaître que la grâce, la bonté et la magnificence de Dieu s'est accomplie dans notre vie. Comprenez-vous ? Alors, qui que vous soyez dans ce lieu, quand Dieu te choisit, et je vais parler pourquoi Dieu choisit. Quand Dieu te choisit, il y a cette réalité que tu peux faire une différence incroyable dans la vie des gens qui sont autour de toi et ta propre vie, vivre des choses magnifiques. C'est pourquoi, deuxièmement, au-delà des choix des hommes, Dieu regarde à notre cœur. Au-delà des parents, il y a une histoire qui va prendre place entre Caïn et Abel. Une histoire, le premier crime de l'humanité. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Même les mots justes en hébreu, c'est « Dieu honora l'offrande de Abel et il méprisa l'offrande de Caïn ». Lorsque j'étais enfant, je comprenais pas cette histoire. Je la trouvais injuste. Je trouvais cette histoire totalement injuste. Je me disais, mais Dieu, c'est pas correct quand même ce que t'as fait. Abel, c'est ton chouchou. T'as aimé son offrande et t'as pas aimé l'offrande de l'autre. Pourtant, les deux t'ont fait l'offrande du fruit de leur travail. Pourquoi t'aimes un et t'aimes pas l'autre? Pourquoi tu honores l'un et tu méprises l'autre? Et je ne comprenais pas ça. Et je me souviens, j'étais voir un ancien et je discutais avec lui. Et cet ancien me dit, écoute, tu sais, en fait, ça vient que Abel a fait une offrande, c'est un sacrifice. Il a fait un sacrifice, c'est juste des fruits. Il a fait un sacrifice, il y a eu du sang qui a été versé. C'est pour ça, parce que tu comprends, Jésus, les morts sur la croix, le sang, etc. Tout ça, ça fait appel à ça. Et c'est pour ça qu'il a préféré cette offrande-là. Et sur le moment, je suis là, je fais le gars qui, ça me convient comme réponse, mais au fond de moi, ça me convenait pas. J'ai dit, ben non, quand même, ils ont apporté ce qu'ils avaient. Et en fait, je ne comprenais pas jusqu'au jour où j'ai vraiment étudié le passage. C'est tellement clair et c'est tellement évident de pourquoi Dieu a honoré et pas honoré l'autre. C'est que lorsque Abel a fait une offrande, c'est pas une histoire d'animaux ou de fruits et légumes. Hein. Dans le temple, lors du sabbat, on offrait les deux d'ailleurs. Hein. C'est tout simplement, écoutez bien, c'est que simplement quand Abel a fait son offrande, Abel a honoré Dieu dans son offrande. Ça veut dire que la Bible nous dit que c'est par la foi que Abel, Hébreux chapitre 11, c'est par la foi que Abel a fait son offrande. Il a pris les prémices, c'est-à-dire il a pris le début, les premiers-nés, ceux qui sont nés en premier, et il savait pas si derrière il allait en avoir d'autres qui allaient naître, mais il a pris les prémices, il a pris les premiers-nés, et c'est pas tout. Une fois après les avoir pris, il les a sélectionnés pour choisir les meilleurs. C'est-à-dire non seulement il a pris les prémices, mais dans les prémices, il a pris le top du top. En d'autres mots, il a donné la crème, il a donné le haut du panier, il a donné la quintessence de ce qu'il pouvait faire pour honorer Dieu. De l'autre côté, Caïn, l'artiste, le gars incroyable, etc., etc., Caïn, lui, va faire une offrande, c'est comme du tout venant. Ça veut dire, c'est ce que j'ai sous la main. Qu'est-ce que j'ai? 2 pommes, 3 carottes, 2 poireaux. Tiens, Seigneur, ça te fera plaisir. Vous comprenez? Bah, quand même, je fais une offrande. C'est quand même top. C'est quand même, j'honore Dieu. Sauf que pour Dieu, l'honorer, c'est pas ça. Pour Dieu, c'est qui honore Dieu? C'est ceux qui donnent leur meilleur, qui donnent l'excellence pour Dieu. Je suis pas en train de parler de professionnalisme, je suis pas en train de parler de gros chèques ou de gros comptes en banque ou de services qui prennent 45 heures par semaine. C'est pas ça que je suis en train de parler. C'est ceux qui donnent leur meilleur. Ce que je fais, je le donne de mon meilleur. J'ai 2 talents, je vais lui donner 2 talents. J'en ai 5, j'en donne 5. Mais je donne mon meilleur à Dieu parce que Dieu mérite le meilleur. Et quand nous honorons Dieu, Dieu nous honore. Parce que, comprenez ceci, le choix de Dieu est conditionné à l'honneur que nous pouvons avoir pour lui. Je vais revenir dans quelques instants vraiment pour faire comprendre cette réalité. Pour l'attitude d'Abel est celle que vous devez imiter, à savoir offrir le fleuron, le plus beau à Dieu. Le Seigneur mérite la quintessence de votre vie. Beaucoup trop d'enfants de Dieu se contentent de donner du reste quand le Seigneur attend l'excellence. Dans notre service, notre travail, notre générosité, notre famille, nous sommes appelés à donner le meilleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Malachi chapitre 1 verset 6, la Bible nous dit que Dieu va reprendre le peuple. Pourtant, ils avaient fait une offrande et c'était des animaux et le sang était versé. Donc comme quoi c'est pas une histoire d'animaux de sacrifice et de sang. La Bible nous dit Malachi chapitre 1 verset 6, pour regarder ça tranquillement chez vous, Dieu va s'insurger. Il va dire à son peuple, il va dire où est l'honneur qui m'est dû? Où est le respect qui m'est dû? Parce que, pourquoi il dit ça? Parce que les gens apportaient à Dieu des bêtes infirmes et aveugles. Il dit, où est l'honneur qui m'est dû? Lorsque vous m'apportez des offrandes qui sont avec des bêtes aveugles, lorsqu'ils sont avec des bêtes infirmes, apportez ça plutôt à votre gouverneur et vous allez voir s'il va vous faire bon accueil. Ce qui choque Dieu, c'est lorsqu'on ne l'honore pas. Mais lorsqu'on honore Dieu, nous devenons le choix de Dieu. Certains vont dire, oui, mais Ésaü et Jacob, ça avait été le choix de Dieu, ils n'étaient pas nés. Dieu est omniscient, il savait ce qu'allait avoir par la suite. Il savait que Ésaü allait mépriser le droit d'aînesse. Comprenez-vous? Et le choix de Dieu est conditionné avec des gens qui veulent l'honorer. Et là, il y a un Caïn qui déshonore Dieu. Il donne ce qu'il a sous la main, il donne du reste, il a aucune excellence, il ne veut pas donner son meilleur. Alors qu'il y a un Abel qui donne les prémices, et même dans les prémices, il est en train de faire un tri pour donner son meilleur. C'est pourquoi je finirai troisièmement et dernièrement. Il y a un appel à réaliser que Dieu désire nous considérer. Comprenez ceci. L'amour de Dieu est le même pour tout le monde. Est-ce que vous êtes convaincus de ça ? Moi qui vous parle ce matin, j'ai beau être pasteur de l'église, Dieu m'aime pas plus que vous. Et celui qui est dehors, qui ne connaît pas Dieu, et qui peut-être cette nuit a vécu sa vie comme un patachon qui a fait les 400 coups, j'aimerais vous dire, Dieu l'aime autant que vous que moi. La Bible nous dit que Jésus est mort sur le bois de la croix afin que quiconque soit sauvé. Dieu nous aime tous d'un amour équivalent. Mais l'honneur de Dieu est différent. Regardez ce que la Bible dit. J'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, ceux qui me méprisent seront méprisés. Est-ce que vous avez remarqué que si Dieu nous aime tous de la même manière, si Dieu aime tous les personnages que nous lisons dans la Bible de la même manière, est-ce que vous avez remarqué que c'est pas tout le monde qui appelait l'ami de Dieu? Abraham était l'ami de Dieu. Est-ce que Lot était l'ami de Dieu? Non. Pourtant, Dieu les aimait de la même manière. Mais un était l'ami de Dieu et pas l'autre était l'ami de Dieu. La Bible nous dit que Jabez était plus considéré que ses frères. Pourquoi Dieu considérait plus Jabez que ses frères? David avait une considération de la part de Dieu. Et qu'on s'entende bien, les trois que je viens de vous parler n'étaient pas parfaits. Même Jacob n'était pas parfait. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient la considération de Dieu. Pourquoi ils avaient la considération de Dieu? Parce qu'ils bâtissaient et ils désiraient donner leur meilleur à Dieu. Comprenez ceci. Dieu nous aime tous de la même manière, mais il ne nous considère pas de la même manière. Dieu nous aime tous pareil. Qu'on s'entende bien, ne partez pas de ce lieu en disant « Ouais, le pasteur, il a dit qu'il y avait des chouchous, puis il y en a, il les aime plus que d'autres. » Non, non, non. Dieu a zéro chouchou. Jésus est mort sur la croix pour tout le monde, pour chaque personne dans ce lieu, et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, et pour les athées, et pour les bouddhistes et les musulmans. Dieu nous aime tous de la même manière, mais sa considération va pour ceux qui l'honorent. Est-ce que vous comprenez la différence ? Sa considération va pour ceux qui l'honorent. Jabez était plus considéré que ses frères. Et il y a un appel à honorer Dieu. Et quand j'honore Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu m'honore. J'honorerai ceux qui m'honorent. Et je mépriserai ceux qui me méprisent. Il y a un appel où Dieu désire nous honorer. Il y a un appel à réaliser que c'est ça, la considération. On aime tous pareil. Et imaginez avec moi un instant. Alors, on est dans un grand rassemblement. Ok, là, on est déjà plusieurs centaines, mais imaginez, vous êtes un rassemblement, 3, 4, 5, 10 000 personnes, et que vous marchez dans la foule. Vous descendez, vous marchez dans la foule. Est-ce que vous allez vous arrêter à chaque fois que vous croisez quelqu'un? Oh, je suis tellement heureux de te voir! Même si les gens, la première fois que vous les voyez, vous les prenez dans leurs bras. Je t'aime, je suis tellement, tellement, tellement content. On va vous prendre pour un dingue, hein, si vous faites ça en plus. Mais vous comprenez que vous le faites pas. Par contre, si au fur et à mesure que vous redescendez l'allée, vous voyez quelqu'un avec qui vous avez bâti des choses, des gens avec qui vous avez bâti une amitié, des gens avec qui vous avez fait des choses incroyables, qu'est-ce qui va se passer? Alors que vous aimez tout le monde, hein, Vous aimez tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous allez croiser quelqu'un avec qui vous avez bâti quelque chose, avec qui vous avez eu une intimité, vous allez vous arrêter, vous allez la prendre dans vos bras et vous allez prendre un moment de partage et d'échange. Comprenez-vous? Vous aimez tout le monde de la même manière, mais votre considération va pour ceux avec qui vous avez bâti quelque chose. C'est exactement pareil pour Dieu. Il nous aime tous de la même manière, mais sa considération va pour ceux qui l'honorent, avec ceux avec qui il a bâti quelque chose. Alors j'espère que vous êtes avec moi, nous voulons honorer Dieu et nous voulons bâtir une intimité, nous voulons grandir avec Dieu afin que le nom de Dieu soit glorifié. L'amour de Dieu est identique, mais sa considération est pour ceux qui l'honorent. Amen. Caïn a eu l'occasion de changer. Peut-être si aujourd'hui vous n'honorez pas Dieu, même si vous aimez Dieu, même si vous êtes chrétien, ou si vous ne connaissez pas Dieu, la Bible nous montre qu'on peut changer. Vous savez, quand Caïn a eu ce mauvais sentiment, parce qu'il n'a pas été honoré par Dieu, c'était la conséquence de lui. Vous imaginez ce gars qu'on l'avait mis sur un piédestal, lui, l'artiste, le créateur, etc. Et puis il y avait le Abel, l'absurde, l'inutile. Puis d'un seul coup, Dieu dit, ben non, moi je préfère lui, là, je préfère ce qu'il a fait. Vous comprenez que Caïn a eu un ressentiment terrible dans son cœur. Mais Dieu est venu et il lui a donné l'opportunité de changer. Malheureusement, et j'espère que ce n'est pas le choix que nous ferons, Caïn n'a pas écouté ce que Dieu lui a demandé. Il a persisté dans sa mauvaise voie et il va même tuer son frère. Quelle histoire terrible. Mais ça aurait été tellement beau. Imaginez que l'histoire finisse en disant que Caïn a réalisé son erreur, a réalisé combien il était orgueilleux, qu'il avait besoin de s'humilier, puis de prendre son petit frère comme exemple. Imaginez, elle aurait été belle cette histoire. Mais la Bible nous dit que Caïn est demeuré dans l'état qu'il était. Et il a été jusqu'à tuer son frère. Et la vie de Caïn a été une vie de malédiction. J'aimerais vous encourager et vous inviter ce matin. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Jésus est mort sur le bois de la croix afin que nos péchés soient pardonnés, afin qu'on ait une espérance, afin que nous puissions avoir une vie belle et utile pour la gloire de Dieu. J'honorerai ceux qui m'honorent. Le choix de Dieu se porte, sa considération se porte sur ceux qui l'honorent. Il y a quelque temps, j'ai vu un documentaire. J'ai vraiment trouvé ça beau. Après, j'ai même été voir le film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, Les Chariots de Feu. Et c'est une histoire vraie qui nous parle d'un coureur du 100 mètres, Eric Liddell, en 1924, aux Jeux Olympiques de Paris. En 1924, il y avait ce jeune Anglais à qui la médaille d'or était promise. C'était le Usain Bolt de l'époque. C'était celui qui courait le plus vite au monde. Et c'était un fervent chrétien. Et là, lorsqu'il arrive à Paris, il commence à faire les éliminatoires, il commence à courir, et puis forcément, à chaque fois, il gagnait. Et là, le jour de la finale tombe, il ne le savait pas à l'avance, le jour de la finale tombe, c'est un dimanche matin. Et lui qui était un fervent croyant, il ratait jamais une réunion le dimanche matin. Et il fallait toujours qu'il soit dans la maison de Dieu pour louer et adorer Dieu. Et lorsque Eric Liddell apprend que la finale du 100 mètres avec la médaille d'or au bout qui lui était promise, lui, le Usain Bolt de l'époque, il regarde, il réfléchit, il se met à prier et il dit, Seigneur, je ne ferai pas cette finale parce que moi, dimanche matin, il est hors de question que je sois dans un stade où les gens vont m'acclamer, alors au lieu d'être dans une église pour t'acclamer et t'adorer toi. Alors Eric Liddell a refusé. Vous imaginez l'Angleterre, les journaux, les titres, les médias, c'était l'ébullition. Le gars, imaginez un instant, le gars il refuse de faire la finale parce qu'il doit aller à l'église. Mais imaginez ça un instant, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il a refusé, il a dit non, je vais pas, je vais le dimanche matin, je vais louer, je vais adorer Dieu dans une église à Paris, dans une église presbytérienne, protestante à Paris. Et là, il demande aux organisateurs, est-ce que c'est possible quand même que je, c'est pas du tout sa discipline, mais est-ce que c'est possible que je m'inscrive aux 400 mètres? Et là, sa fédération, l'Angleterre, etc., oui, tu peux t'inscrire, le CIO, tu peux t'inscrire. Il s'inscrit, tout le monde est OK. Et le dimanche matin, plutôt que de faire la finale et de gagner la médaille d'or, lui, il est dans l'église, en train de louer Dieu. C'est même lui qui a prêché ce matin-là. Par la suite, c'est devenu un pasteur après sa carrière. Et il va commencer le lundi à faire les éliminatoires du 400 mètres. Et le jour J, il arrive en finale du 400 mètres. C'est pas sa discipline. Et là, juste avant de prendre le départ, il y a un ami, un athlète américain qui vient le voir et qui lui donne un papier. Il ouvre ce papier et dans le papier, sur le papier, est écrit le verset qu'on a lu ensemble tout à l'heure. J'honorerai ceux qui m'honorent. Il a pris son petit bout de papier, il s'est mis dans le starting block et 1, 2, 3, poum, partez. Et il a couru tout le long avec le petit bout de papier, j'honorerai ceux qui m'honorent. Et vous savez ce qui s'est passé? À la fin, il a remporté la médaille d'or. Je ne suis pas en train de dire que faut pas travailler le dimanche matin, que faut pas faire ceci. C'est pas ça mon point. Mais pour Eric Liddell, lui, c'était ça. Honorer Dieu pour moi, c'est ça. Le sport ne prendra pas, une médaille d'or ne prendra pas la place de Dieu dans mon cœur. C'est d'abord Dieu que je sers. Et parce qu'il a honoré Dieu, Dieu l'a honoré. Et ensuite, c'est devenu un prédicateur de l'évangile juste incroyable. Alors, j'espère que vous êtes avec moi. Tous ceux, parce que nous avons été choisis, prédestinés par Dieu, nous allons honorer Dieu afin que Dieu nous honore, afin d'avoir un impact pour la gloire de son nom sur cette terre. Et tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et applaudissent et acclament le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever ?
Ce message a été enregistré à l'église Momentum de Bordeaux. Pour le réécouter, rendez-vous sur eglisemomentum.com.
Pain de vie revient toutes les nuits dans la nuit autrement sur Phare FM du lundi au vendredi à 1h15 et 4h15. Place à la musique, Beautiful Broken de Plumb, suivi de la parole du jour.
Every tear, every doubt, every time you've fallen down, when you're hurting, feeling shame, when you're numbing all your pain, when you've lost your way and feel so far away, you're not, you're beautifully broken, and you can be whole again, even a million scars doesn't change who's you are, you're worthy, beautifully broken.
Chaque jour, un mot d'encouragement avec Bob et Debbie Gass.
De peur qu'il ne se décourage. Colossiens 3, verset 21. De l'éducation dans un monde troublé, partie 5. Bonjour à tous. Un enfant amer finit par se décourager. Alors, il perd l'espoir, l'enthousiasme, manque de volonté et s'écarte vite du droit chemin. En détruisant son espoir, on abîme le tempérament que Dieu lui a donné. Les enfants naissent optimistes et inspirés. Sans espoir, rien ne les motive. Le désespoir entraîne la dépression et obscurcit le cœur et l'âme. Lorsque j'irrite mes enfants, je sape leur espoir. Lorsque je les démoralise, je détruis leur confiance en eux, les laisse à leurs angoisses et leurs incertitudes. La confiance en soi est vitale, pour entrer en relation avec les autres, pour réussir sa vie. Un enfant découragé perd ses certitudes et son esprit est brisé. Salomon a dit « Un esprit abattu dessèche les eaux ». Proverbe 17, verset 22. Les rues sont pleines d'enfants brisés. Ceux-là n'ont pas la volonté de réussir dans la vie, de se fixer des objectifs et de les atteindre. Salomon dit encore « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ». Proverbe 29, verset 18. C'est la vision qui donne la force de mener une chose à bien malgré les obstacles. Les enfants doivent être intacts et résistants pour affronter la vie. Comment les aider? Paul dit « N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Éphésiens 6, verset 4. Vous devez les chérir, leur enseigner la parole de Dieu, même lorsqu'ils semblent indifférents. Mettre en pratique ce que vous prêchez, être cohérent avec vos règles, lire la Bible et prier en leur présence. Encouragez-les toujours et ne les abandonnez jamais.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, ma radio.
Dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing.
I like to dance and it looks like this.
I like to dance and it looks like this.
Yeah, looking good. We like to dance and it looks like this. Come on.
Smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips.
My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing.
Feel Like Dancing, Jason Mraz sur Phare FM, 5h moins le quart passé. Notre programme se poursuit On va retrouver Hommes et Femmes, mode d'emploi, après Joseph O'Brien et la chanson Something Different, c'est maintenant.
I've been trying, but I don't always do the things I know to do. And I'd be lying if I said most days I look just like you do. Yeah, but I hope there's something that they see in the life of love I lead. I got something that they need, and I hope in everything I do there's a little more of you, yeah. And that there's something so different, they're wondering what's missing, 'cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up with your love and loves with a love that can make something different, something different, something different, something different. When my existence isn't living for myself, myself, always giving someone who lays my life down for somebody else, hey, else. And be something so different, they're wondering what's missing, 'cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up with your love and loves me, a love that can make something different, something different, something different. And be something so different. And be something so different. They're wondering what's missing, 'cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up with your love and loves me, a love that can make something so right, love that's so bright.
Les femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Aujourd'hui, nous parlons des règles de conflit.
L'adversaire n'est pas mon conjoint, il ne faut pas se tromper d'ennemi. L'adversaire est à l'extérieur et on va chercher une solution qui soit gagnant-gagnant.
Le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'y réfléchir à froid. Donc on va
c'est-à-dire
vous donner quelques idées et puis dites-nous ce que vous en pensez. Mais c'est juste des idées que nous, on a, avec l'aide du Saint-Esprit, hein, fini par mettre en place parce qu'on avait marre de terminer sur le carreau quand on s'était disputé, figurativement parlant évidemment, mais avec des blessures et le sentiment de on ne sait pas ce qu'on fait dans ces cas-là. Ça nous emporte, ça va plus vite que nous.
C'est ça, puis on se faisait mal alors que ce n'était pas du tout l'objectif, mais on avait de la peine à gérer nos différences.
Quelques idées. La première, c'est que vraiment, on a essayé de ne pas avoir le show de la dispute devant les enfants, en fait. C'est une bonne chose que les enfants sachent que les parents ont des différences, c'est la vie, c'est normal. Comme on l'a dit, c'est le signe d'un couple en bonne santé.
C'est même important qu'ils le découvrent.
Mais on a essayé de faire attention à ce que le show de l'explication ne se passe pas devant les enfants. Je vais vous donner un exemple. Un jour, on rentrait d'un voyage, il n'y a pas très longtemps, donc en fait, on retrouvait nos fils, il y en avait un qui était dans un état différent, bref, on était pour une fois dans l'année, tous les sept, ensemble, avant que notre aîné se marie. On se retrouvait donc après une longue séparation et on allait manger au restaurant. Et on est arrivé d'Europe, donc on avait dans mon porte-monnaie que des euros et on s'est retrouvé devant un péage américain où il fallait mettre des dollars dans la boîte. J'avais pas de dollars. Moi, j'ai dit à Eric, bon, c'est pas grave, on a qu'à mettre des euros, ça vaut plus cher de toute façon.
Je lui ai dit, non, mais c'est pas possible. C'est
illégal.
On va se retrouver, peut-être pas en prison, mais avec une amende, parce que si on met des euros, peut-être ça va bloquer la machine. Moi, j'ai dit, non, donne-moi des dollars, tu dois bien avoir des dollars.
Bref, vous voyez la tension qui monte entre nous deux. Puis on a fini par se taire, parce qu'on n'avait pas envie d'exploser. Donc on s'est tus. Nos garçons, plus personne ne disait rien. On est rentrés dans le restaurant, et au moment de s'asseoir, notre aîné dit, bon, papa, maman, vous sortez tous les deux, et vous allez faire votre explication, et vous revenez réconcilier. non, parce qu'on ne va pas passer le repas comme ça. Donc, ils ont eu l'habitude de nous voir, ouais. Ok, on peut avoir des tensions, on va, on s'explique, on revient. Mm-hmm. On aime bien avoir un lieu dédié à ça.
En fait,
qui peut être mobile. Hein.
Si, oui, le lieu peut changer, mais si vous avez de la place, ce qu'on vous conseillerait, c'est d'avoir un lieu qui ne soit pas le bureau de madame ou l'atelier de monsieur, mm-hmm. qui ne soit pas marqué, c'est mon
la
territoire.
Chambre.
Surtout pas la chambre, parce que c'est l'endroit en général où on dort ensemble, on a de l'intimité ensemble, et si je sais pas qu'on ouvre la porte, on a là, waouh, c'est là qu'on s'est disputé la dernière fois et c'était chaud, donc vaut mieux pas. Mais un endroit neutre, tout simplement, où on va se retrouver quand on a besoin d'une explication.
On a décidé un code entre nous, on a un petit mot magique qui fonctionne un peu comme le bouton d'arrêt d'urgence dans un train. Vous savez, s'il y a une urgence, on appuie ou on tire l'alarme, là, le train s'arrête sans que le conducteur dise « qu'est-ce qui se passe ?» On arrête le train.
Quoi ?
Donc on a choisi un mot qui semble être un mot doux de l'extérieur, mais en fait, si je l'utilise, c'est genre mon lapin, c'est pas ça, mais c'est genre, je suis en train de dire « arrête ce que t'es en train de faire, tu me fais mal, il va falloir qu'on en parle. » Mais de l'extérieur, ça ressemble à mon chéri, quoi.
Et là, c'est si on se dispute ou si on a une tension, on va dire, en public, et on n'a pas envie de blesser l'autre en public, absolument pas.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Time's not wasted, wasted on you. Every breath you'll be the one that I choose. Lost in your presence, a heavenly moment. Telling my heart don't rush, I wait. Deep in the love that you lavish upon me, I'm hanging on every word you say. 'Cause time's not wasted when it's wasted on.
Josh Gotton, Time's Not Wasted sur Phare FM. Dans quelques minutes, retrouvez Bonjour chez vous et Innocent dans Cocorico à 5h30. Quant à moi, je reviens à minuit. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon mercredi. Merci de rester avec Phare FM. Tout de suite, on écoute Slimane, Mon Amour, et je vous dis à bientôt.
Mon amour, dis-moi à quoi tu penses. Si tout ça a un sens, désolé si je te dérange. Mon amour, te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime, j'ai pas. Toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine. On en fait quoi? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Mon amour, je ferai tout ce que je peux. Un océan dans le feu, l'impossible si tu le veux. Promets, j'ai